Alors Laurent Green, qui pour une fois lâche le football pour venir parler de la scène punk, donc c'est un spécialiste du football, mais comme quoi il y a aussi des connexions assez surprenantes entre un monde hyper normalisé et puis un label, alors un label Combaroque qui va être interrogé du point de vue justement du DIY, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie de créer son label, de faire un label. Laurent, je te laisse présenter ton travail. Donc, tu dois avoir le micro là-bas, celui-ci je le garde. Et pour une vingtaine de minutes...
Ouais, je vais me décaler, je verrai mieux. Donc comment est partie cette interrogation? Mais je voulais simplement apporter une contribution un peu plus autre que ponctuelle lors d'un colloque annuel et puis m'intéresser de plus près. Et je voulais savoir ce qui se passait dans ma région, donc la scène Messine en particulier et puis la scène de l'Est. Au début, j'ai pas trouvé grand-chose. Je suis allé essayer de rechercher du côté d'un groupe mythique sur la scène Messine qui s'appelle PKRK. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur un site internet qui s'appelait Combaroque. Pas de lien précis avec l'album des Clash, on le verra. Et puis, je suis rentré en contact avec le créateur et l'unique gestionnaire de ce label. Donc, en fait... Globalement, ici, je ne m'inscris pas en faux du tout, mais c'est vraiment l'histoire d'une pratique. Et peut-être que, toute proportion gardée, on s'inscrit un peu dans la micro-histoire, c'est-à-dire comment une pratique, en la questionnant, la micro-histoire de Ginsburg, on va arriver à éclairer un peu ce dit Greg, qui de toute façon est protéiforme, tout le monde l'a évoqué. Alors, plus pragmatiquement, ma problématique, est-ce que c'en est vraiment une? C'est s'interroger tout bêtement sur cette pratique du singulière. Qu'est-ce qu'elle éclaire sur des pratiques peut-être plus communes, sur des valeurs qu'on pourrait questionner, et puis sur des principes? C'est ce qu'il y a écrit dans votre plaquette. Donc, j'arrive chez Caps, je ne pourrais plus vous dire son nom, c'est le fondateur du label, et il mentionne tout de suite, parce que je ne me rappelle pas la date, et du coup, mon internet marchait plus hier, j'entends mal parce que la musique est à fond pendant tout l'entretien, la musique punk qui défile en boucle. Il me dit, mais t'as oublié que c'était la date de décès de Sid Vicious, donc je suis désolé, mais on démarre cet entretien. Alors, globalement, je vais rentrer dans le détail de ce qu'a été ce label. Vous voyez le t-shirt du label ici. Donc, il a été fondé en 89 sous un statut associatif. Puis, comme finalement, il a commencé à gagner de l'argent, Caps, le fondateur, a été plus ou moins contraint de passer sous le label, sous l'égide de l'EURL, c'est-à-dire, j'ai plus le terme exact, hein, je suis pas financier, mais c'est une SARL pour une personne individuelle. Et puis ensuite, parce que finalement, il était dans un creux de la vague, et qu'il reperdait de l'argent, il s'est remis sous le statut associatif. Alors, avant ça, je vais présenter le fondateur du label, qui est Caps. Donc, vous voyez ici, curieusement, il voulait prendre une photo assez clean. Il m'a dit, je t'enverrai une photo clean, alors que moi, j'aurais préféré le prendre dans son environnement ambiant qui était assez bordélique. Avec, même si ici, c'est bien rangé, avec les CD aussi, il y a tout un tas de fouilles de feuilles ici, de cartons postaux, parce que, bah, évidemment, il faut qu'il envoie ses CD lui-même par la poste une fois par jour. Et donc... quelqu'un qui est né dans une famille commerçante, qui, dès l'âge de 12 ans, dès sa sortie, a écouté en boucle Nevermind the Bollocks, mais ce qui l'a plus interpellé et ce qui lui a parlé, c'est Matching Gun Etiquette des Damned, et puis le premier Yuka Subs. Et voilà, il me révèle, j'ai envie de faire ça dans ma vie, dès qu'il entend ces deux albums. Ça va être son fil directeur. Et lui évoque, c'est pas moi qui le dis, c'est un côté mystique, c'est-à-dire que quand cette musique est arrivée, il s'est dit, cette musique, c'est pour moi. Ils l'ont faite pour moi. Et ça va transparaître dans son discours à plusieurs reprises. Donc, il fait une scolarité, plus qu'honorable. Ce que je dis plus honorable, le lycée Faber de Metz, moi qui suis un local, c'est le lycée d'élite de la ville de Metz. Donc, en gros, l'intervenant précédent parlait de classe moyenne blanche pour certains interviewés. Mais effectivement, on est dans ce cas-là. Puis, 4 ans de fac, comme il le dit un peu en dilettante, hein, c'est pas 4 premières années de fac, mais quasiment. Et depuis le lycée Faber, qui est en centre-ville, ça lui permet de fréquenter la zone punk. Alors, ce sont ses propres termes, hein, la méchante zone, c'est-à-dire des gens qui sont acculturés au punk, et certains qui n'ont pas son niveau social, qui sont passés aux drogues dures, à l'héroïne, et d'autres, la plupart ont disparu. Alors, dans un premier temps, avant qu'il fonde son label, il autoproduit quand même le premier 45 tours de PKRK que vous avez ici, qui s'appelle Made in Anarchia. Il y a même un sous-titre, il est écrit « Réalisé en anarchie ou fait en anarchie ». Enfin, ils ont pris le soin de traduire en français, ce qui est pas si anecdotique. Autoproduit avec GGN et Léen, c'est-à-dire qu'il y a une phase de PKRK et l'autre phase, c'est GGN et Léen à un groupe de Nancy. Donc vraiment, comme il le dit lui-même, hein, sont ses propres paroles. En meilleur de It Yourself, il n'y avait pas mieux. Donc on enregistre par un copain qui nous avait fait des sons. On photographie la pochette, on les découpe nous-mêmes, on les place dans le catalogue de la Redoute pour les aplatir. Et puis ensuite, on vend de la main à la main. Et effectivement, ça, c'est un premier pas avant la fondation du label. Et Caps, en même temps, bon, après la fac, travaille comme coursier. Et à un moment donné, il gagne, il se retrouve avec 5000 francs en poche. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais faire ce que j'aime, je vais produire de la musique punk. Et donc, il lance son label qu'il appelle Combat Rock. Donc, je vais prendre ce point de nom de label qui somme. Alors il me dit, je lui dis, mais c'est en référence à l'album des Clash. Il me dit, non, ça c'est de la merde, cet album, je ne supporte pas. Mais par contre, il me fallait un nom qui claque et un nom qui soit anglo-saxon, parce qu'il fallait que je puisse exporter mes produits. Alors, il a noué des... Alors, je n'ai pas bien compris dans l'interview, je n'ai pas eu le temps de le réquestionner. En tout cas, il s'inspire de relations antérieures, avec Marsu de Bondage Records ou de Rico de Gouniaf Mouvement, hein, de copains étrangers. Je ne sais pas tout encore si c'est des amitiés ou si c'est des relations ou si c'est une inspiration. Ça, c'est à creuser. Ses prévisions initiales pour lui, hein, en 89, c'est que ça va lui prendre à peu près plus ou moins une demi-heure par soir, et puis que, en gros, 2-3 heures le matin ou l'après-midi, le samedi, point barre, ce sont ses termes. Et il réalise ce premier label sous statut associatif. Et dès le départ, en fait, effectivement, très peu de ventes, hein, et plutôt une galère parce qu'il commence à perdre des sous. Là, c'est un point aveugle de mes entretiens, c'est-à-dire que j'en ai eu qu'un. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un l'aide à combler ou comment ça se passe, ça, j'en sais encore rien. Alors, par contre, son premier album, c'est The Sect, un groupe de Birmingham, parce que Caps fait des séjours fréquents en Angleterre, donc il réside à Coventry. Et puis, il fonctionne et ça sera une constante tout au long du label, il fonctionne avec des réseaux et des amitiés. Et donc, il se lie d'amitié avec The Sect. Il est producteur, donc il book un studio, et puis il enregistre, et puis il produit ce premier maxi. Enfin, c'est pas le premier, il produit un maxi de The Sect, mais qui marche très peu. Et il produit le premier PKRK dont il est le bassiste. Et on avait vu qu'il y avait un premier single. Ici, il s'agit du premier LP. Et à nouveau, très peu de ventes. Par contre, 2 ans plus tard, sa boîte dépose le bilan, donc la boîte dans laquelle il est coursier, ce qui lui permet, comme il le dit, de toucher des indemnités plus que confortables de la NPE et donc de se consacrer à plein temps à Combat Rock. Alors, on suppose qu'il fait, parce que ça, c'est pas très évident dans ce discours, c'est à creuser aussi, on suppose qu'il fait plus de merchandising, plus de concerts, plus de... qu'il étend son réseau et il se met à fond dans le label et il prétend être là au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que l'ère du CD qui a débuté, eh bien, elle se répand. Et donc, comme il presse du CD punk et que, évidemment, tout n'est pas trouvable partout, d'autant plus que la vente sur Internet, c'est pas encore développé au point... auquel on la connaît actuellement, eh bien, ça lui permet de vendre beaucoup plus. Donc, il est salarié par l'association dans laquelle il travaille. Il est victime, entre guillemets, parce qu'il n'est pas si victime que ça. Il subit un contrôle fiscal positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redressement, rien de ce type-là. Mais par contre, les contrôleurs du fisc lui disent, en fait, vous êtes concurrentiel avec les labels qui existent et il faudrait que vous passiez sous le statut EURL. Donc, ce qu'il fait. Ici, on a des accointances finalement avec la grande distribution, puisque on a une double distribution, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un bon distributeur qui est Musidisc, qui a de gros distributeurs, la Fnac, Virgin, et même des grandes surfaces dans la région de l'Est qui distribuent ces CD. Et que, on le verra plus tard, il y a aussi des petits distributeurs qui font de la vente de la main à la main dans les concerts. Évidemment, le label déménage plusieurs fois, c'est-à-dire physiquement, puisqu'il faut stocker les palettes de CD qui arrivent. Et donc les années 90, c'est plutôt une période glorieuse pour Combat Rock. Et donc, il s'aperçoit que c'est du travail. C'est ce que dit Fabien Hein dans son livre de 2012, Le Do It Yourself. Le dit à Greg, c'est du travail. Des embats fausto, deux fois par jour, des heures de boulot par jour. En fait, c'est un boulot à plein temps. Il s'appuie aussi sur un réseau de fanzines qui est énorme. Donc, ce qu'avait bien décrit Samuel Etienne à la Philharmonie. Et comme je le disais avant, énormément de petits distributeurs. Et il a lié des amitiés avec beaucoup de petits distributeurs sur la France entière qui se font envoyer 10, 15, 20 CD ou 5 et qui les distribuent dans des bacs plastiques dans les concerts. Et selon lui, ça fonctionne très bien. Et ça permet à certains albums de faire des gros scores. Et par contre, effectivement, c'est l'arrivée du téléchargement qui va impacter l'existence de Combat Rock. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans, puisqu'il faisait du spécifique, globalement, cette l'onde de choc, elle arrivera en différé. Et finalement, à nouveau, Combat Rock est au creux de la vague et doit reprendre le statut, d'abord se mettre en cessation d'activité en tant qu'URL, puis reprendre le statut associatif. Alors, il se retransforme en association avec l'aide d'un informaticien, parce que, comme il le dit lui-même, il est nul en visuel pour les pochettes, et puis des personnes pour le site internet, hein, des amis. Et par contre, c'est ce qu'il dit lui, je fais tout. Alors, quand il dit tout, c'est la manutention, les colis, les réceptions de CD et de vinyle, puisqu'ils se sont remis au vinyle. Et la constante, c'est qu'il recrute toujours des groupes sur le coup de cœur. Il va les voir après les concerts. Hein, et puis, ben, il vient négocier avec eux sur ses productions. C'est-à-dire, ben, on ne vous paye pas, mais en échange, par contre, on vous donnera 200, 300, 400 CD que vous pourrez écouler dans vos concerts. Alors, son rêve, c'était de faire un album avec les UK Subs parce qu'il a un lien particulier avec Charlie Harper, qui l'avait accueilli dans les années 90 à Brixton. Et finalement, par ce réseau d'amitié, il arrive, après une matinée où il a enregistré avec Vice Squad, avec Becky Bondage, il arrive chez Dave Goodman, c'était son rêve, il touchait plus terre d'après lui, et pendant 2 jours, ils enregistrent avec les UK Subs, ce maxi que vous voyez ici, en 2000. Donc, actuellement, qu'est-ce qui est devenu Combat Rock ? Donc, c'est toujours un label qui existe, même s'il a diminué, qui, selon lui, selon Caps, c'est le blond, hein, vous l'aviez deviné, n'investit pas de la même façon selon les groupes, selon qu'ils sont français ou anglais, selon qu'ils sont connus ou pas. En gros, on a des écarts aussi entre les productions, c'est-à-dire que malheureusement, il ne m'a pas fourni, il est en train de ranger tout ça, de classifier ses dossiers, mais d'après lui, tout y est. Les bons de commande, les chiffres de compte de l'association. Donc ça peut aller de 500 vinyles pour une petite production à plus rare, 4-5 000 exemplaires pour des grosses productions. C'est un marché de niche quand même, il me le dit, et donc ça continue à marcher puisqu'il y a des choses qu'on peut trouver très difficilement ailleurs et bien chez Combat Rock. Souvent des échanges de bons procédés avec les groupes. Hein, ben, voilà, c'est par les amitiés, la fidélisation que ça se produit. Je vous ai pris l'exemple des UK Subs avant. C'est un groupe qu'il a vu, il ne peut pas le chiffrer. C'est à peu près entre 150 et 200 fois en concert. Alors, quelle valeur on pourrait accoler en allant très vite et en étant diffus ? Donc déjà, la première valeur, c'est vivre de ça, vivre de cette forme de diagreek. Hein. Déjà, dans les années 79-80, il est habité par cette passion. Quand il tourne dans la scène punk Messine, globalement, c'est le seul qui est vraiment... Enfin, c'est pas le seul, mais c'est lui le plus passionné par la musique. Il faut qu'il vive constamment avec ça. Il me donne quand même l'anecdote d'un de ses copains de la zone dure qui tourne pendant 10 ans avec l'unique Nevermind the Bollocks. Et il écoute 5 fois par jour. Et il dit, la fois où vous m'amènerez un disque qui est mieux, une cassette qui est mieux, je l'écouterai, mais pour l'instant, j'ai pas mieux. Donc lui, par contre, il est curieux, il va chercher ailleurs aussi. Alors au départ, c'est un projet de dilettante. Hein, son projet initial, c'est je fais ça parce que j'aime et puis parce que c'est pas fait ailleurs et ça me permettra de gagner ma vie de façon amusante mais pas trop pesante. À chaque fois, c'est l'amour d'un groupe, c'est les coups de cœur. Hein, donc c'est vraiment fondé sur la passion à nouveau. C'est aussi un moyen de promouvoir ses propres groupes PKRK puis Char 69. Son groupe actuel dont je vais reparler après. Donc, quelles sont les valeurs, celles qui sont décrites notamment par Fabien Hayne, la coopération, les échanges de savoir-faire entre musiciens, producteurs, distributeurs. Et voilà ce qu'il me le dit, ce qu'on ne peut pas me donner, je le fais moi-même. Alors, quel principe ? Au final, hein, on est un petit peu dans cet entre-deux, entre vendre quand même malgré tout et au final accepter de faire des bénéfices et peut-être rentrer dans le grand capital. On en parlait tout à l'heure. Prendre un nombre de labels anglo-saxons pour vendre mieux. Ne pas rejeter les gros distributeurs à questionner aussi. Les principes, c'est toujours ne jamais relier de l'amitié, même si, bien évidemment, quand je lui demande, il y a eu quelques trahisons, des groupes qui sont partis du label alors qu'ils avaient promis de réaliser des maxis ou autres. Une auto-formation sur le tas. Au début, on ne sait pas ce qu'il faut déclarer à la SACEM, on ne sait pas ce que c'est... comment il m'a dit ça, la galvanoplastie. On ne sait pas ce que c'est les autorisations à demander, donc on navigue en eau trouble. Et puis... une idée intéressante, il me dit moi ça m'a formé parce que tu vois le travail sans effort on s'accroche moins donc c'est pas la même gratification et puis vite fait il se rend compte qu'il m'a dit un truc un peu stupéfiant pour quelqu'un qui vit toujours comme un peu, qui me dit mais en fait je parle comme un vieux con là. Et voilà, on est un petit peu dans cette dichotomie entre le do it yourself et puis est-ce que je dois ou pas adhérer être un suppôt du grand capital. Toujours dans les principes, donc des échanges constants avec les labels similaires, y compris de l'étranger. Selon lui, il a inspiré. Alors, il n'était pas antérieur. Hein, il y avait Bondage Records et puis d'autres encore. Mais enfin, il a inspiré d'autres labels amis. Beaucoup de connivence avec l'étranger, et notamment cet album de Charge 69. Donc, d'après lui, en toute modestie, il le dit lui-même, une idée géniale. Qui bizarrement avait jamais été faite, donc ils font leur best-of et ils font chanter en anglais parce qu'il y avait des chansons en français pour que ça sonne mieux. Sur 10 chansons, leurs idoles des années 80, donc T.V. Smith, Charlie Harper de UK Subs, Becky Bondage et d'autres, donc sur 10 titres différents. Et ça se vend très bien d'ailleurs, hein, entre 5 et 10 000 exemplaires, donc très bien à l'échelle du label. Donc un style de vie à questionner, comme le disait Manuel Roux tout à l'heure, j'en ai profité pour taper vite fait, mais il faut rebondir sur les nouveaux savoirs et les nouveaux apports. Donc ici il s'agit de retrouver une zone de liberté qui n'était pas forcément politique, même si je ne l'ai pas questionné là-dessus, hein, en le faisant par lui-même, et je pense qu'on pourrait l'intégrer dans ce do it together auquel je n'avais pas réfléchi, et je te remercie pour ça, hein, seul mais pas tout seul. Avec quand même des artistes, des distributeurs, tout un réseau qui a été monté. Donc, défend en moyen, comment je traduirais ça, moi ? C'est du plaisir simple au profit, puisque finalement, à un moment donné, il va bien en vivre. Et puis, finalement, de l'absence de musique, il n'y en a pas, et c'est moi qui vais la créer, cette musique, et qui vais distribuer. Un diagreek constant avec des adaptations. Alors, donc parfois je suis en diagreek toujours dans cet entre-deux entre je refuse les valeurs du grand capital et je les accepte. Quelques limites. Il faudrait que je confronte son discours qui est unique. On devait se voir une deuxième fois, mais ça ne s'est pas fait cette semaine, avec d'autres acteurs. Ça m'a ouvert la scène Messine. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Puis du coup, peut-être qu'avec Audrey, on va faire quelque chose sur l'Est, du coup. Hein, c'est l'occasion. Des archives, effectivement, qui me permettraient de compléter son discours. Qu'est-ce que ça a été? Quels ont été les hauts et les bas? Quelles ont été les ventes? Comment ça s'est tenu? Comment ça s'est fait? Des compléments d'informations sur son revenu, son capital économique et social, par exemple. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais voilà, c'était... Caps, il est issu d'une famille commerçante, la moyenne bourgeoisie de Metz. Donc s'il lance son label et qu'il se casse la gueule, est-ce que par derrière, il est soutenu par ses parents ou pas? Ça, je ne le sais pas. Ou est-ce que s'il se casse la gueule, il se casse la gueule et il vit dans la méchante zone? C'est peut-être des questions à creuser. Et de toute façon, peut-être, sans doute, que ça n'aurait rien modifié à son projet initial. D'autres facettes aussi de sa personnalité. Par exemple, Andy O'Gray, il me dit qu'il est tourneur pour les Stiff Little Fingers. Et que donc, c'est lui qui les a fait tourner pendant 4-5 dates. 7-8 d'ailleurs, Allemagne et Grand Est. Et donc, c'était sur le parking quand on s'est quitté, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir. Voilà, donc c'est une monographie, c'est un exemple de pratique qui met en exergue une singularité, parce que, ben, on l'a vu, hein, y a des singularités, il y en a beaucoup dans cette scène punk. Donc, pour conclure, une citation que j'ai extrait de l'ouvrage de Fabien Hein, hein. Si l'expérience punk est une vilité, le degrade est une intensité, et je pense que chez Caps on l'a, qui consiste à prendre les choses en main. Voilà ce que j'ai trouvé chez lui, hein. Du lien, alors après c'est voilà, hein, du lien social, d'autres, de l'autodidaxie, ouais, et de l'expansion de la puissance d'agir et de vivre. Voilà, je vous remercie.
Merci Laurent. Des réactions, des commentaires, des demandes de précision. Là, on a vraiment une monographie, hein, quelque chose qui est en voie de construction aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de repères qui sont posés. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que tu poses des choses, ben, faut aller plus loin pour faire des connexions, pour mieux comprendre, mieux saisir les logiques. C'est un petit peu, enfin, c'est complémentaire avec ce que Manuel a présenté juste avant, c'est-à-dire qu'on voit bien comment les choses se construisent sur un point très particulier. Alors, dans la durée, on parle de micro-histoire, mais en fait, on a quelque chose là qui nous amène à réfléchir sur comment les choses se mettent en place et puis comment elles se transforment au fur et à mesure des évolutions sociales aussi, pas seulement de la scène punk, mais aussi de la distribution du disque, etc. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut agir, réagir plutôt, commenter, insulter Laurent, peut-être.
Bonjour.
Bonjour.
C'était comme ça une réflexion en fait, parce que en fait le label s'appelle Combat Rock et je voulais savoir en fait si la personne qui s'en occupe justement où elle se situait son combat en fait.
Alors.
Je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette question. Parce que
non, pas vraiment. Je vais juste donner des pistes parce que ce n'est pas une question que je lui ai posée. Hein. On devait avoir deux entretiens, j'en ai eu qu'un d'une heure. Bon, ce n'est pas suffisant pour l'ensemble de ce qu'il y a à faire. Son combat, au départ, je ne sais pas si c'était un vrai combat. Hein. Pour lui, je pense que c'est justement ce que je disais, ce que disait Manuel avant. Pour lui, je n'ai pas l'impression... Enfin, je creuserai ça, mais j'ai pas l'impression que c'était politique, c'était un engagement. Pour lui, son combat, il est plutôt au départ individuel. C'est-à-dire, je crée plutôt un manque personnel, enfin, je comble un manque personnel, c'est-à-dire ben, l'absence de... ou le peu de disponibilité de musique rock qui existe par rapport à mes envies, et c'est moi qui vais subvenir à ce manque. Mais ensuite, peut-être qu'effectivement... alors, je l'interprète comme ça, c'est peut-être tout à fait faux, hein, mais pour moi, c'est ça le départ. Ça sera à lui de me le confirmer, et du coup, je vais noter cette question que je lui poserai, hein, peut-être pas dans ces termes, en tout cas, je lui poserai. Et ensuite, Son combat, effectivement, peut-être c'est diffuser et puis amener aux oreilles de tout ce réseau qui se constitue en concert, ses amis, ses connaissances, plus de musique et puis plus de musique disponible. Bah, je pense que c'est là. Après, aller dans d'autres formes plus, comment je dirais, plus singulières ou plus engagées. Je sais pas, de l'éthique écologiste, d'autres éthiques qu'on verra. Ça, j'ai pas vu de trace de ça chez CAPS.
Je voulais juste te poser la question de est-ce que il s'est fait défoncer par les autres labels ou les autres groupes pour vouloir en vivre en fait de cette activité-là.
J'en ai pas l'impression en tout cas. Alors, on n'a pas assez approfondi, hein, mais j'en ai pas l'impression. En tout cas, c'est jamais remonté dans son discours. D'après lui, c'était toujours assez fluide. C'est-à-dire que, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais il les donne toujours en termes de vente et de chute de chiffre du label. Et quand, alors, à la fin, je lui pose quand même la question des déceptions et des trahisons. Et à aucun moment, il me parle de. Alors peut-être que moi j'aurais dû insister là-dessus, hein, voilà, dans le temps qu'il m'a parlé, mais à aucun moment il me parle de trahison par rapport à son aspect de producteur, c'est-à-dire, ou de collaboration par exemple avec Virgin ou la Fnac, ce qui aurait pu se produire. Alors peut-être, après c'est moi qui n'ai pas creusé, il me dit qu'il y a des groupes qui se sont désengagés, qui lui avaient promis d'enregistrer, qui ne l'ont pas fait. Alors peut-être que certains groupes se sont retirés pour ne pas collaborer avec cette grande diffusion. Ça c'est possible, mais ça je ne l'ai pas creusé, je pourrais pas te répondre.
Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut plus facilement dire ah ouais non, ce groupe-là ou ce label-là, cet organe de concert, elle est pas do it yourself, nanana, par le biais des réseaux sociaux. Mais j'ai remarqué que c'était jamais en face, c'était toujours par le biais des réseaux sociaux et que du coup, c'est peut-être plus facile à soulever maintenant. Qu'à une époque où il n'y avait pas Internet, où c'était plus difficile de choper l'information. Quoi.
Oui, c'est fort possible. Pour répondre à la question initiale, j'ai pas, en tout cas, il m'a pas informé directement de ces formes de trahison ou de rancœur ou de remarques qu'on lui aurait faites.
Merci. C'est une question qu'un commentaire, en fait, de mon point de vue d'historienne de l'art. Je trouve que le recours aux informaticiens pour réaliser les pochettes, et ça c'est très intéressant du point de vue des sources, c'est quelque chose qui nous permet aussi de complexifier un peu notre vision de l'esthétique punk, parce qu'on imagine, et d'autant plus dans une journée sur le DIY, que voilà, on va avoir affaire à des cutters, voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que vous apportez une complexité du coup par rapport à notre propre vision du DIY, en particulier du point de vue de l'image.
Merci bien pour cette remarque. J'ai peut-être pas poussé la réflexion aussi loin, moi, mais merci.
Tu vas la pousser maintenant.
Je vais la pousser du coup. Encore une question à poser à CAPS.
Oui, Jérôme.
C'est juste pour une petite remarque, effectivement, c'est que c'est juste une réaction par rapport aux deux dernières interventions et sur le contexte temporel ou historique, parce qu'en fin de compte, si on regarde Combat Rock, dans les années 90, c'est aussi une époque, tu l'as souligné par une autre manière, mais de développement du CD au début des années 90, ou par exemple sur la réflexion entre le vinyle et le CD, et aussi la question de l'esthétique, il faudrait les recontextualiser à l'époque. Enfin, il y a plusieurs personnes dans Pind qui pourraient parler de ça, mais typiquement, comme l'urgence, c'était un peu de transmettre d'abord le son, et le CD, forcément, par la poste et tout ça, c'était plus facile et tout ça. Donc c'était vu comme un outil idéologique de transmission de la culture qui était important. Alors que du coup, maintenant, il y a eu un switch avec le vinyle. Et donc du coup, il y a eu aussi des gens qui... Enfin, du coup, le vinyle a une signification par rapport au DIY retrouvée, en fait. Et donc là, il y a une complexité à avoir par rapport au vinyle au CD. Les gens de la génération de CAPS, par exemple... ou même Marsu pour Crash Disc et tout ça, ils sont pas forcément ils aiment pas le vinyle parce qu'ils trouvent que c'est un truc de bourgeois, de collectionner, où les prix montent, il y a des cotes et tout ça, mais il y a vraiment une dialectique là. Et je pense que aussi bien même pour l'esthétique des pochettes, enfin moi je trouve ça super moche, mais bon. Après, je suis pas. Peut-être que je. Bon. En général, voilà ce qu'il fait. Enfin, moche, mais en même temps, j'ai jamais vraiment été punk. Et puis, c'est un point de vue individuel. Je trouve ça moche. Mais peut-être que les. Enfin, les gens qui sont plus dans le punk trouvent ça beau, ce qui est les pochettes de Combat Rock. Mais le fait que ce soit des CD et puis que ce soit avec des pochettes où il n'y a pas forcément, par rapport à des gros militants DIY actuels, ou même des gens qui étaient plus, enfin plus les gens qui sont étudiés, enfin qui étaient liés à la vague de 80, enfin la vague plus dans les squats et tout ça, il y a quand même une grosse différence quoi. Et moi j'avais une autre petite question, mais on en parlera une autre fois, c'est que du coup il y a eu un label à Nantes, du coup qui s'appelle Dialectique, et en fin de compte le gars, enfin Stéphane, il explique que lui c'est Caps qui lui a expliqué comment faire et tout ça, parce qu'il était, il a appris grâce à Combat Rock. Et d'ailleurs, il a sorti des trucs de PKRK aussi. Enfin, je ne sais pas si tu en as parlé.
Non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais justement, voilà, justement, ce fameux réseau à creuser. Et donc, je vais y aller, effectivement, super. Et effectivement, ta remarque sur le switch CD vinyle puis vinyle CD puis revinyle et là par contre pareil, c'est un biais sur le temps. Il me dit voilà, c'est tiré à 500 000. Je dis mais en CD ça donne quoi? Il savait pas trop, faut que je retrouve les 1000 livres de compte, mais dans le bordel qu'il avait tout partout, je lui dis laisse tomber, on fera ça une autre fois, et puis voilà. Mais c'est une question effectivement qui me paraît ouais, encore plus essentiel que je l'ai fait apparaître ici.
C'est pas devenu une émission de Combat Rock? Parce que la brune qu'on a vue en photo, elle fait une émission, non?
Alors là, elle s'appelle Alicia, mais il m'en a peu parlé en tout cas. Alors c'est une émission sur une radio locale ou parce que comme c'est sur
oui,
Metz...
Ça s'appelle Internet, c'est local.
Merci pour ce tacle, assassin. Non, je déconne.
Mais une chaîne YouTube, non, je sais pas.
Non, mais préciser. C'est devenu une émission de radio.
Oui, sur la région Internet. Messine, je suppose.
Sur Facebook et sur Internet.
Ouais. Alors, oh merde. c'est moi. Voilà.
Donc ça, c'était le dernier concert punk de Laurent. On le voit avec les lunettes de soleil, voilà. Voilà.
Bon, j'ai bien fait de ne pas arriver à un vieux t-shirt fake tout troué. Et voilà.
Donc, Combat Rock à suivre sur Facebook.
Sur Facebook. Et par contre, c'est marrant parce qu'en googlisant à mort, je ne suis pas tombé sur l'émission alors que j'ai fait des pages et des pages.
Oui, Alicia.
Oui, je sais. Mais justement, elle, je l'ai retrouvée, mais je ne suis pas tombé sur. Mais bon, je taperai émission radio ou Facebook tout bêtement. Et c'est bizarre que je ne suis pas tombé sur Facebook. Peu importe.
Donc, encore une question ou on enchaîne avec Marie? Oui.
Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi il a pris ce surnom Caps? Parce que c'est-à-dire que c'est l'identité de cette personne qui est très importante pour le label. C'est un commerçant très habile. Alors je me demandais si c'était question de comment, en anglais, quand on dit caps, c'est majuscule, etc., et puis de parler très fort, je ne sais pas.
Je ne lui ai pas demandé. Alors par contre, ça, c'est sans doute, j'ai oublié son nom, hein. Mais je crois qu'il s'appelle Charles ou Claude Alain, quelque chose, CA, et Chervel, ou... Enfin, il a un nom dont les initiales sont en rapport avec le surnom caps. Par contre, après, est-ce que peut-être plus loin, il y a une autre signification, parce que ça peut être double, ça je ne le sais pas, parce que je ne lui ai pas demandé. Et comme j'ai noté son nom en manuscrit et que je ne l'ai pas sur mon ordi, je ne saurais plus vous dire. Mais quand j'ai vu le surnom, pour moi, ça avait un rapport avec les initiales de son prénom et de son nom.
Parce que pour un public anglophone, déjà.
Oui, tout à fait, ça sonne aussi, c'est comme le nom du label qu'il a choisi à dessein, quoi. Voilà. Mais sur la scène rock, c'est-à-dire que j'ai eu un ami à dîner en lui disant je vais faire une communication, et il me dit ah mais tu, je vais interviewer un gars, il s'appelle Caps, mais tu connais Caps, le gars ça fait 30 ans qu'il le connaît, il tourne sur toutes les scènes Messines, chaque concert un peu punk bien sûr, mais aussi rock qui bastonne, il y est quoi, il est connu dans tout Metz.